Donc, nous continuons l'étude du livre de la Genèse et nous avons déjà vu l'introduction lors du week-end d'église. Et puis, dimanche dernier, je n'étais pas là, mais je crois que Thibaut nous a présenté les deux premiers chapitres. Et là, nous arrivons au troisième chapitre, à l'origine du péché. Et donc, je vous propose de regarder ce chapitre qui n'est pas très très long, que nous allons lire d'ailleurs en partie après partie, de le regarder en un peu plus en détail que ce que nous aurons l'occasion peut-être de faire sur d'autres sections du livre, et donc de nous attacher un peu au détail de ce que nous dit le texte. Alors pourquoi c'est, et donc je vous propose le plan suivant, avec une introduction qui donne un peu le contexte, et puis quatre parties, la tentation, la chute, la sanction et le remède, qui me semble-t-il découpe ce chapitre 3 avant quelques mots de conclusion. Tout d'abord, l'introduction et le contexte. À quelle scène sommes-nous confrontés ? Eh bien, nous constatons qu'il y a une très forte continuité entre ce qui nous a été dit au chapitre 2 et au chapitre 3. Je rappelle que le livre se découpe en tolédotes. Nous avons appris ce mot il y a 15 jours, hein, donc c'est 11 parties plus le chapitre 1 qui découpe le livre en 12 sections, et ce tolédote court en fait du chapitre 2 verset 4 jusqu'au chapitre 4 verset 26. Et donc le chapitre 3 est pleinement inclus dans ce premier tolédote, donc dans cette deuxième partie des 12 du livre de la Genèse. Et nous retrouvons d'ailleurs les mêmes personnages que nous avions au chapitre 2, au chapitre 3. C'est toujours Adam et Ève qui sont les protagonistes de ces deux chapitres, et donc il y a cette continuité. Il y a aussi un certain nombre de rappels et de contrastes, nous aurons l'occasion peut-être d'en dire quelques mots, mais il y a des termes que nous retrouvons au chapitre 2 qui sont repris au chapitre 3, soit en parallèle, soit en contraste. Naturellement, se pose la question, en particulier pour ce chapitre, de l'historicité de ce récit, que beaucoup de commentateurs libéraux ont conçu plus comme un mythe que comme un récit historique. Or, ce que nous présente le texte ici, quand nous le lisons, le texte se présente comme un récit historique, dans la continuité d'ailleurs de ce que nous trouvons dans la suite. Et il y a des détails qui sont donnés, mais il y a quand même des choses un peu particulières. Et donc, j'ai beaucoup aimé la formule de Henri Blocher, qui nous dit qu'il ne s'agit pas de savoir si nous avons ici un récit historique de la chute, mais si nous avons le récit d'une chute historique. Et ce récit d'une chute historique est recouvert d'un revêtement, et nous aurons l'occasion d'en dire un petit mot, un peu symbolique dans plusieurs aspects, et comme je l'avais dit dans l'introduction, qui font très souvent écho au contexte du milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, dans lequel se trouvait le peuple d'Israël quand Moïse a mis ensemble ces textes pour nous donner le livre de la Genèse. Mais néanmoins, ce que nous pouvons constater, c'est que les auteurs subséquents ne font pas de doute sur le fait qu'il s'agit d'un récit historique. Nous avons par exemple une citation d'Adam dans le livre du prophète Osée, et puis surtout dans le Nouveau Testament, quand Paul dit en 2 Corinthiens 11 « Je crains que comme Ève a été séduite par le serpent », apparemment, pour l'apôtre Paul, Ève a bien séduite par un serpent. Voilà. Alors donc, nous nous trouvons avec ce point délicat d'un récit dont je pense qu'il faut maintenir l'historicité, mais dont il ne faut pas, de notre côté, méconnaître le revêtement figuratif qui, justement, faisait écho au contexte dans lequel se trouvaient les fils d'Israël quand le livre de la Genèse a été mis ensemble. Et nous essaierons de rester sur cette ligne de crête entre les lignes. C'est un livre dont on ne peut absolument pas méconnaître l'importance. Vous vous rappelez ma fameuse racine carrée ? Ça vous dit quelque chose, ça ? Voilà. Eh bien, la racine carrée, on est quand même à un quart de la racine carrée ici. Parce que la racine carrée, c'est création, chute, rédemption, accomplissement. Eh bien, ici, nous avons le récit de la chute. Donc, c'est quand même très, très important comme chapitre. Je ne sais pas si je devais sélectionner 10, 12 chapitres dans la Bible, il en ferait peut-être partie, parce que sinon on ne comprend pas le message biblique. Et puis, non seulement on ne comprend pas bien le message biblique, mais c'est en plus un chapitre qui donne une explication fondamentale de la situation actuelle. Seule la Bible donne le vrai sens du péché, et cela sans biais, parce que des biais, nous en avons. Et d'ailleurs, on a souvent reproché au christianisme d'être une religion de la culpabilité. Et c'est vrai qu'une emphase excessive sur ce sujet de la culpabilité a pu conduire des gens à être coupables de choses dont ils n'auraient pas eu besoin d'être coupables. Il y a une fausse culpabilisation. Je pense qu'aujourd'hui, le pendule est largement reparti de l'autre sens et que c'est une absence de culpabilité qui est plutôt l'apanage du monde dans lequel nous vivons. Donc soit on peut avoir une conscience du péché trop aiguë, soit une conscience du péché trop légère, et la Bible seule nous donne la juste ligne. Alors, c'est vrai que les formes du péché sont variables suivant les époques, suivant les endroits, etc. Mais ce que nous pourrons remarquer, c'est qu'il y a des fondamentaux qui sont intangibles et que ce chapitre nous décrit de façon absolument remarquable. Alors, un sujet que je vais laisser de côté parce qu'il nous conduirait trop loin, même s'il est très lié à ce chapitre-là, c'est tout le débat sur la doctrine détaillée du péché originel. Avec tout ce qu'on peut dire en remontant Augustin, etc. Je ne vais pas détailler ce point-là, je vais juste souligner trois points. Tout d'abord qu'en Genèse 5, verset 3, il est dit que Adam a engendré un fils selon son image et selon sa ressemblance, alors que au chapitre 1, c'était l'homme qui avait été engendré selon l'image et la ressemblance de Dieu. Tandis que là, le fils d'Adam, il est à la ressemblance d'Adam. Et donc, il semble bien qu'il y ait ce lien qui perdure. Et ce lien corporatif, eh bien, nous le trouvons affirmé dans le Nouveau Testament, en particulier au chapitre 15 de 1 Corinthiens, en Adam, tous meurent en Adam. Et c'est pour cela que des petits-enfants meurent, avant qu'ils aient eux-mêmes commis, parce qu'ils sont en Adam. Ils ont en eux-mêmes cette sentence de péché. De notre côté, la Bible affirme de façon très forte, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le fait que la responsabilité personnelle demeure totalement. Et cette responsabilité, c'est « tous ont péché ». Romains 5, verset 12. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le péché est évacué. On ne parle pas tellement du péché, c'est un terme que l'on veut mettre de côté, pas plutôt dire « parlez-nous de l'amour de Dieu, pas du péché, il y en a marre du péché ». Mais c'est quand même un concept qui est en partie présent, même si on ne l'appelle pas ainsi. Par exemple, on s'indigne, et à juste titre, de la pédophilie, du viol, du racisme, tant d'autres aspects qui suscitent l'indignation de nos contemporains, mais ils auront peut-être un peu de peine à labelliser cela sous le terme de péché. Alors, ce qu'il est très important de retenir est... Vous remarquerez, de temps en temps, j'ai mis un petit encadré comme cela. Alors, il apparaît d'un vert pas terrible avec l'écran, mais normalement c'était jaune. C'est un petit point à retenir de ma planche. Vous voyez, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cet aspect. Et pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment important. C'est que si on évacue le péché, on évacue le Sauveur. Donc il n'y a plus besoin de Jésus, il n'y a plus besoin de christianisme, il n'y a plus besoin d'évangile. Ben oui, si on est des braves gens, on n'a pas besoin de Sauveur. D'où l'importance de ce chapitre. Et si on met ce chapitre de côté, si on l'occulte, si on le met un petit peu sous le tapis, eh bien, on pourra parler de l'amour de Dieu, mais ça restera un concept qui n'aura pas de prise par rapport à la réalité du sujet. L'amour de Dieu, c'est pour des pécheurs. Nous l'avons encore rappelé avec force ce matin. Donc, si ce chapitre est mis de côté, il n'y a pas besoin de l'évangile. On peut s'arrêter là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On remonte à la création, on dit que, comme Rousseau, l'homme est bon. Donc, il est important de lire ce chapitre. Alors, venons-en maintenant au texte lui-même, et je vous propose une lecture des 5 premiers versets. Je lis dans la version second 21. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Ah, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Alors, nous commençons ce récit avec le serpent. C'est quoi ce serpent ? C'est vrai qu'on n'aime pas trop les serpents, à part les herpétologues. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle. Le serpent, il rappelle bien entendu beaucoup de choses pour ceux qui vivaient au 15e siècle avant Jésus-Christ. Parce que le symbole du serpent, quand on se promène dans un musée, eh bien, on le voit dans beaucoup de sculptures, dans des tableaux, etc. Donc il y a un symbolisme très fort et qui remonte très 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 loin en arrière. Et donc, dans le symbolisme historique du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, le serpent symbolise la magie, c'est aussi le monstre du chaos, c'est aussi la sagesse mauvaise. Et cela, on le trouve dans de nombreux textes, j'en avais cité quelques-uns lors de l'introduction, qui faisaient un petit peu la culture de l'époque. Alors ça, c'est le symbolisme historique, et c'est le plus important, je pense, pour comprendre pourquoi Dieu parle du serpent dans ce récit de la chute. Il y a aussi un symbolisme physiologique, hein. Le serpent, il a un venin, il se tortille, il entoure petit à petit, vous savez, pour rappeler le livre de la jungle, Kaa, hein, ça me dit quelque chose. Et le serpent aussi est nu, voilà, il change d'apparence. Et mais il me semble qu'au-delà de ce symbolisme historique ou de ce symbolisme physiologique, il y a des caractéristiques symboliques qui sont fortes que nous trouvons dans le texte et qui vont nous éclairer. Tout d'abord, c'est que le serpent, c'est un être personnel. Et cet être personnel, qui n'est pas beaucoup décrit ici dans le livre de la Genèse, sera personnifié de plus en plus au fur et à mesure que la révélation va se dérouler. C'est un être aussi créé. Alors ça, c'est très important. Vous avez remarqué dans le texte, qu'est-ce qui nous est dit ? Aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, Satan, le serpent ancien, je l'identifie parce que nous, on a déjà lu l'Apocalypse, hein, c'est un être créé. Donc, il n'y a pas de dualisme. La Bible évacue tout dualisme, vous savez, avec le Dieu du bien et le Dieu du mal qui rentrent en conflit, etc. C'est complètement faux. Satan est soumis à Dieu, c'est un être créé. Mais c'est un être différent des humains. Ah, ça c'est intéressant de voir ça. C'est que c'est un animal. C'est pas le serpent, il est présenté comme un animal, il n'est pas présenté comme un humain. Et il n'y a que les humains qui sont à l'image de Dieu. Le serpent n'est pas à l'image de Dieu. Alors c'est vrai que le serpent symbolise, personnalise, si je puis dire, un ange déchu très puissant, mais les anges eux-mêmes ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils ne sont pas faits comme ça. Ils sont puissants en force, mais ils administrent, mais ils ne représentent pas. Donc vous voyez, c'est différent. Et puis, ce qui est très intéressant de voir, c'est que le serpent, c'est un animal des champs. Ce n'est pas un animal du jardin. Il était dehors, en dehors du jardin. Il n'avait pas sa place, là, dans le jardin. Il rentre dans le jardin comme un intrus. Et puis, c'est un être astucieux. Alors là, le serpent était le plus rusé. Ce terme, il peut... shrewd, on dirait en anglais. Hein, shrewdness. Et il est rusé, il est malin, il est avisé. Ça, c'est la Nouvelle Bible Second. Roué, subtil, tortueux, traduit le semeur, etc. Donc, on voit qu'il y a tout cet aspect-là. Et ça va bien avec le serpent. Hein, vous voyez combien le symbolisme physiologique va bien. Alors, c'est vrai que nous avons tous ces éléments-là qui décrivent le serpent, mais l'identification claire attend le Nouveau Testament, et en particulier le serpent ancien qui est le diable, et Satan et l'accusateur. Donc, il y a ce texte de l'Apocalypse 12 qui nous permet de réunir un petit peu tout cela et de comprendre qui il est. Et ce qu'il est important pour nous, c'est de discerner qui est derrière le serpent. Pourquoi Dieu nous présente-t-il cette scène avec un serpent et pas le diable lui-même, avec ses cornes? On n'a jamais vu que le diable ait des cornes. Hein. Ça, c'est l'imagerie. Mais bon, au moins, s'il était venu avec ses cornes, sa queue fourchue, on aurait bien compris. Là, c'est le serpent, il se déguise. Bon, le serpent, c'est peut-être pas très sympathique, mais c'est quand même un peu moins effrayant que le diable rouge avec sa fourche et ses cornes. Ben, c'est parce que, eh bien, le diable se déguise. Ah oui, c'est ce que Paul rappellera en 2 Corinthiens 11. Il se déguise en ange de lumière, etc. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est discerner le tentateur derrière. Derrière quelque chose qui peut nous paraître un peu plus anodin. Comme le serpent, c'est un peu plus anodin, c'est un peu plus familier que le diable à la queue rouge. Et comme le dit le même Paul dans la même lettre de 2 Corinthiens, nous n'ignorons pas ses desseins. Il essaye de se mettre derrière, parce que c'est un être astucieux, tordu, malin, roué, subtil, etc. Donc, nous avons ce serpent qui arrive, et ce serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Déjà, on voit bien que là, il y a un revêtement symbolique, hein, parce que serpent qui parle, actuellement un ménate, mais pas un serpent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va introduire le doute. Et il va introduire le doute sur deux points très importants. Il va suggérer à Ève de rejeter la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui avait été cette parole du chapitre 1, parole créatrice, parole positive, parole rassurante. Il va transformer la parole de Dieu. Et alors, vous remarquerez la façon dont c'est dit. Vraiment, hein, Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce qu'on n'a pas vraiment un peu mal compris les choses, hein? Vous savez, ça, c'est comme ça que souvent le doute s'insinue. Est-ce qu'on a vraiment bien compris les choses? Et il tord la parole, il fait un mensonge par exagération, ce qui est très actuel d'ailleurs, hein, qu'on fait les réseaux sociaux. Et donc on exagère les choses. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Dieu n'avait jamais dit ça. Aucun des fruits, mais comment ils auraient fait pour survivre, Adam et Ève, s'ils n'avaient pas pu manger les arbres du jardin, alors que Dieu leur avait dit, je vous donne tous les arbres justement pour le manger. Vous voyez? Donc il exagère. Et ça, c'est souvent aussi le début du mensonge. Parce que le mensonge, si c'est un mensonge cache, je dirais on le retient, on le débusque facilement. Tandis que si c'est une demi-vérité qui est mélangée ou qui est exagérée, eh bien là, c'est beaucoup plus subtil. Ah oui, ça va mieux pour cela. Et on voit que Satan, il va suggérer plutôt que démontrer. Donc il va transformer la parole de Dieu et ensuite il va nier la parole de Dieu. Quand il va dire dans la deuxième fois où il prend la parole, vous ne mourrez absolument pas. Alors ça c'est vraiment une affirmation très claire. Et puis le deuxième aspect que va introduire Satan, c'est le doute sur la bonté de Dieu. Ben oui, comment serait-il que Dieu vous met dans ce jardin, mais il vous prive d'un arbre? Et puis en plus, cet arbre, il est bon, il permet de faire connaître le bien et le mal. Et ça, c'est l'introduction du doute sur la nature de Dieu. Est-ce que nous avons affaire à un Dieu punitif, à un Dieu castrateur, à un Dieu rival de l'homme qui voudrait, pour éviter que l'homme puisse arriver à son niveau, eh bien mettre de côté quelque chose que l'être humain ne pourra pas avoir? Parce que comme ça, au moins, je garderai le pouvoir parce qu'il y a des choses que je sais et que eux ne savent pas. Alors, face à ces doutes, je vous invite à retenir ce chant que nous chantons parfois pour le chant des enfants. Je ne veux pas en douter, Dieu est bon. Voilà. La bonté intrinsèque de Dieu. Et cette bonté intrinsèque de Dieu nous fait accepter les limites que Dieu nous pose comme des manifestations de sa bonté intrinsèque avant tout. Et donc, n'ayons pas de représentation faussée de Dieu. L'indignation du serpent est mauvaise. Toute indignation n'est pas bonne. Et acceptons que Dieu, quand il nous fixe une limite, tu mangeras de tout arbre. Vous voyez combien le diable transforme quelque chose qui était positif, une ouverture, en une fermeture. Eh bien, il mangera de tout arbre. Eh bien, disons-nous que si Dieu nous restreint sur un point, pas de cet arbre-là, c'est pour notre bien. Et ça, c'est un message, je pense, qu'il faut aussi transmettre à la génération qui suit, c'est que quand Dieu met une limite, met une barrière, eh bien, c'est pour notre bien. C'est pas parce qu'il est un Dieu castrateur, punitif, ou qui ne veut pas de cela. Et puis, ne pas nier le jugement. Vous ne mourrez absolument pas. Eh bien, mes amis, si vous croyez le diable, allez dans n'importe quel cimetière, vous ne mourrez absolument pas. Est-ce qu'il a dit la vérité? 80 milliards de morts depuis cela, c'est à peu près l'estimation que l'on a des hommes qui sont né sur la Terre. Alors, s'il y en a 8 milliards qui sont vivants, vous mettez 72. Hein. Mais ça fait quand même pas mal. D'accord ? 72 milliards de preuves que Satan a dit faux. Alors, que va faire face à ces affirmations de Satan ? Eh bien, Ève. Eh bien, elle va s'ériger en la première apologète. L'apologie, c'est défendre Dieu. Défendre la vérité de Dieu. Bah oui. Elle va se mettre à discuter avec le serpent. Mais est-ce que Dieu a vraiment besoin d'être défendu, s'il est Dieu ? C'était l'animal des champs qui venait dans le jardin. C'était un animal, et vous aurez remarqué que juste avant, et c'est les petits clins d'œil entre le chapitre 2 et le chapitre 3, eh bien, il y avait au chapitre 2 et au verset 20, il nous était dit, l'homme donna des noms à tout le bétail, tous les oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Ben oui, l'homme avait autorité sur les bêtes des champs. Donc, Ève aurait dû avoir autorité, puisque l'autorité était conjointe, on le voit au chapitre 1. Ève aurait dû avoir autorité sur le serpent, lui disant, tu n'as rien à me dire, tu es dans les champs, tu sors du jardin, je ne veux pas discuter avec toi. Mais elle commence. Elle commence à discuter. Ah, et ça, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Elle n'a pas mis en œuvre l'autorité légitime des humains sur les bêtes des champs. Et puis Adam à côté, vous aurez remarqué, puisqu'il était à côté, elle donne du fruit après à son mari qui était à côté. Donc Adam, il la ferme. Voilà. Le silence d'Adam. Donc, c'est même le titre de la vie. Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable et il fuira l'un de vous. Notre tactique vis-à-vis du diable, ce n'est pas de discuter avec lui, c'est d'y lui résister. Et pas de discuter. Si on entame la discussion, eh bien, parfois, c'est mal parti. Donc, Ève est la première apologète, et puis c'est la première légaliste. Alors ça, c'est très intéressant de voir le détail du texte. Comment Ève modifie ce que Dieu a dit, dans la réponse qu'elle fait au serpent. Que dit-elle au serpent ? Je relis ce qu'elle dit. « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors, c'est à peu près ce que Dieu avait dit, mais pas tout à fait. Elle va faire une restriction. Vous mangerez des arbres, alors que Dieu avait dit de tout arbre. Elle va faire un ajout, ne pas toucher. Dieu n'avait jamais dit qu'il ne fallait pas toucher, même l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne fallait pas manger. Elle oublie, elle dit de l'arbre. Elle oublie que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que pourquoi Dieu avait interdit, c'est qu'il ne voulait pas que l'homme, l'être humain, connaisse le mal. Et puis, il y a un déplacement. C'était l'arbre de vie au chapitre 2 qui était au milieu du jardin. Et là, ça devient l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin parce qu'il est au milieu de sa tête, de ses pensées. Et donc, ça, c'est un problème. Parce que nous sommes souvent tentés d'imiter Ève. Et par peur de franchir les limites que Dieu nous a données, nous allons en rajouter, ne pas toucher. Ah ben oui, parce que moi je me sens faible, vous voyez, je veux éviter d'être tenté, alors non seulement je ne vais pas manger, mais je ne vais même pas le toucher, puis je ne vais peut-être même pas le regarder, et puis comme les autres aussi sont faibles, je vais leur imposer de ne même pas le regarder. Vous voyez comment ça fait ? Donc elle, c'est bien la première légaliste. Et comment finalement, en se préoccupant du négatif, elle met le négatif au milieu de ses pensées, et elle est plus facilement induite en tentation. Parce que finalement, quand on se fixe des règles, eh bien, Paul le dira en Romains 7, on a envie de les transgresser. Voilà donc la tentation qui apparaît. Et la tentation se transforme en chute. Et nous allons lire les versets 6 à 13, deuxième partie. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent, loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce que j'ai, ce fruit, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Le premier élément qui ressort de ce récit, me semble-t-il, c'est la culpabilité. Alors, il y a d'abord ce désir avant la culpabilité. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, précieux pour l'intelligence. C'était pas un arbre dégueu. C'était un bel arbre et les fruits, ils étaient beaux, ils avaient l'air bons, etc. Et donc, ça nous fait comprendre, selon l'expression d'Hébreux 11, qu'il y a les délices du péché. Le péché, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, a priori. Mais il induit un acte irréversible. La femme a mangé, Adam a mangé, et patatras. C'est la cassure fondamentale entre Dieu et l'humanité que nous observons à ce moment-là. Et c'est quand même assez paradoxal, parce que la femme, elle avait écouté la voix du serpent, le serpent disait « Vous serez comme Dieu ». Et la première chose qu'elle fait, elle qui voulait se croire Dieu, c'est d'obéir au serpent. C'est quand même paradoxal, vous êtes d'accord avec moi. Si la première chose qu'on fait en tant que Dieu, on se met à obéir. Et donc, elle a suivi la créature plutôt que le créateur. Ses impressions, c'est bon à manger, c'est beau à voir, plutôt que les instructions de Dieu. Et ses idées sur ce qui était bon plutôt que ce que Dieu avait déclaré être bon. Et donc, il y a cet acte initial irréversible qui est joint immédiatement à l'acte d'Adam de manger à côté d'elle. Alors après, nous savons que le Nouveau Testament parfois indiquera que la préséance de l'acte d'Ève n'est pas sans sens, mais vous remarquerez que Dieu, dès le départ, pose d'abord la question à Adam. Où es-tu ? Et donc, les deux sont mis quelque part, si je puis dire, dans le même sac. Par contre, cela nous montre que le péché peut avoir une influence mauvaise. Elle en donna à son mari qui était à côté d'elle. Ben oui, le péché est contagieux. Et le Nouveau Testament va comparer le péché au levain, vous savez, qui s'étend dans la pâte de façon un peu mystérieuse. Et que vont faire Adam et Ève ? Ils ont honte tout de suite et ils vont se dissimuler. Donc, ils vont se faire les fameuses feuilles de figuier, les ceintures en feuilles de figuier, un peu ridicule bien sûr, mais c'est pour ça que je pense que le fruit c'était sans doute pas une pomme, je ne sais pas pourquoi la pomme, mais plutôt peut-être une figue, après tout, hein, ça semblerait plus logique. Et pourquoi se font-ils ces feuilles de figuier ? Pourquoi leur premier acte, une fois qu'ils ont mangé, c'est ça ? C'est quand même bizarre, pourquoi ? Alors d'aucuns ont pensé, c'est parce qu'il faut dissimuler les organes sexuels, parce que le sexe c'est pas beau, comme dirait Titeuf. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, c'est que qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient sans honte ? C'est qu'ils étaient dans l'innocence. Et là, ce texte-là ramène au dernier verset du chapitre 2. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Parce qu'il n'y avait pas ce refus de la différenciation. Ce qui fait la différenciation entre deux êtres humains, ce sont leurs organes et génitaux. Et ça, ils veulent les masquer parce qu'ils ont refusé la différenciation entre le créateur et la créature, puisqu'ils ont voulu que la créature soit au niveau du créateur. Vous serez comme Dieu, disait le diable. Donc, ils refusent cette différence fondamentale entre la créature et le créateur. Et ça se marque tout de suite par le refus de la différence entre l'être humain sexué masculin et l'être humain sexué féminin. Vous voyez ? Et c'est pour cela que le premier acte, c'est de dissimuler ce qui les différencie l'un de l'autre. Parce que un des premiers fruits amers du péché et de la chute, c'est de ne pas se vouloir différent et dépendant de l'autre, incomplet. Je veux être Dieu, je veux être autonome, je veux être le capitaine total de ma propre vie, et donc ça veut dire que implicitement je n'ai pas besoin de l'autre, et si l'autre est différent, c'est qu'il me gêne, etc. Deuxième sentiment qu'ils ressentent, c'est la peur. Il a dit la peur et la cachette. Alors ça, c'est un peu ridicule. Si on se prend pour un dieu, pourquoi on va se cacher quand quelqu'un appelle ? Ils auraient pu interpeller Dieu. Et maintenant que je connais le bien et le mal, moi, je suis Dieu aussi. Et donc, tu n'as pas à me donner des ordres ? Non, 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 non. Dieu reste Dieu. Quoi que l'homme ait pu penser et quoi que le serpent ait pu suggérer, l'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu, et Dieu appelle et l'homme répond. Il est obligé de sortir de sa cachette, parce que c'est quand même tellement ridicule. Vous êtes d'accord avec moi? Et alors là, nous avons les ruptures qui interviennent. Cette rupture horizontale, immédiate, puisqu'ils ont honte l'un de l'autre. Et puis la rupture verticale, puisque ultérieurement, on verra qu'ils sont chassés de la présence de Dieu. Et alors, par rapport à ça, ce que j'aimerais retenir comme point d'application pour nous, c'est attention au plaisir immédiat qu'on paye très cher après. Et là, vous en avez un exemple, par exemple, dans le livre de Proverbes, ça m'a toujours beaucoup frappé, Proverbes, vous savez, l'histoire de l'adultère, le jeune homme insensé, et après il dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Et c'est sûr qu'il a sans doute eu du plaisir à son infidélité, à son adultère, mais après il se dit, mais pourquoi j'ai été aussi bête? Parce qu'après, dans l'histoire des Proverbes, il y a le mari qui risque de lui faire la peau, etc. Vous voyez, pourquoi? C'est vrai qu'on peut éprouver que le fruit, il est bon à manger, et qu'il est délicieux, et puis il apporte quelque chose. Sauf que les fruits après, le plaisir d'un instant, peut être payé très très cher. Et là, il a été payé par le prix de cette rupture, à la fois entre Dieu et l'homme, et aussi entre les humains. Et alors, quelle est la réaction qu'ils ont? Oh, ça c'est pitoyable. C'est la justification. Ils vont rejeter la faute sur l'autre. La femme, l'homme va rejeter la faute sur la femme, et la femme va rejeter la faute sur le serpent. Ça, nous l'avons lu dans le texte. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Le fautif, c'est qui? Ben, c'est l'autre, ou c'est la société. Et puis, in fine, le fautif, c'est Dieu. Hein, la femme que tu m'as donnée. Ah ben oui, si tu lui avais pas donné cette femme-là, mais une autre, je ne sais pas, peut-être que ce serait mieux allé. Sauf qu'il était content au départ, hein, chapitre 2. Vous voyez aussi le contraste. Et in fine, les hommes vont justifier leur péché en accusant Dieu. Ah, c'est la faute au bon Dieu parce qu'il ne fait pas son job. Ou parce que si le monde va mal, ou s'il y a des choses horribles, ce n'est pas parce qu'il y a une culpabilité quelque part, ça on veut le mettre de côté, mais on accuse Dieu. Et ça, je pense que c'est très important pour nous, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie de travail aussi, eh bien d'arrêter de chercher à nous justifier lorsqu'on est pris en faute. Et c'est tellement compliqué, y compris dans les petits détails de nos vies. De verbaliser le péché commis, de dire « oui, j'ai fait ceci, ce n'est pas bien, excuse-moi ». Au lieu de dire « oui, mais la semaine dernière, tu as fait ça aussi ». Vous n'avez jamais eu cette réaction? Jamais. Ah oh, ben, vous êtes bien. Et moi, je l'ai eu. Oui, mais aussi, toi, et puis en fait, non, c'est pas ça, c'est... Il y a un commentateur qui avait une histoire intéressante, il racontait que sa fille venait d'avoir le permis, et c'était un jour où il y avait du verglas, donc elle lui dit « Papa, je peux prendre la voiture pour sortir ce soir ?» Il lui dit « Oui, mais fais attention, parce qu'il y a du verglas, tu n'as pas l'habitude de conduire sur le verglas. » Et puis, une heure après, coup de téléphone, « Papa, il y a eu un petit problème, ah bon, un accident, tu es blessé ?»« Non, non, tout va bien. » Et la voiture ? La voiture, tu ne m'as pas donné la voiture qui avait les ABS et... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, qu'en résulte-t-il de tout cela? Eh bien, s'il y avait une planche que j'aimerais que vous reteniez, c'est celle-là. La nouvelle place où est l'homme. Et la question que Dieu pose. Où es-tu? Eh bien, l'homme se trouve dans un nouvel endroit moral. C'est la question fondamentale. L'homme, l'être humain, connaît maintenant expérimentalement le bien et le mal. Dieu connaît toutes choses. Il sait toutes choses parfaitement. Mais Dieu, quelque part, il ne connaît pas le mal expérimentalement parce qu'il est bon. Même s'il a autorité, je crée le malheur, Ésaïe 45. Quelque part, Dieu ne connaît pas expérimentalement parce qu'il est fondamentalement bon. Même s'il le permet, même s'il l'utilise aussi parfois de façon mystérieuse, etc. Mais si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui a un... cancer, il connaît le cancer expérimentalement parce que le cancer est dans son ventre, il a un cancer du ventre. L'oncologue qui est là connaît parfaitement le cancer, absolument, totalement, il peut le décrire physiologiquement, il peut le soigner même, mais il ne connaît pas le cancer expérimentalement, il n'a pas eu le cancer. Bon, l'image a ses limites, hein, je suis d'accord avec vous, mais elle permet peut-être de faire saisir un petit peu quelque chose de ce que je veux dire. Et qu'est-ce que ça veut dire connaître expérimentalement le bien et le mal? Ça veut dire plus Ça veut dire que, et c'est ce que nous trouvons dans le chapitre au verset 22, quand l'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. » Devenu comme l'un de nous, ça ne veut pas dire que Dieu pense que l'homme est comme Dieu, mais ça veut dire que l'homme s'érige en Dieu pour définir ce qui est le bien et le mal. Parce que la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Eh bien non, Dieu lui avait dit, l'arbre, il n'est pas bon à manger, il ne faut pas en manger. Et la femme dit, non, je décide qu'il est bon à manger. Et donc, la rupture fondamentale, c'est que l'être humain va désormais décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, au lieu de s'en référer à la seule autorité qui est capable de décider quel est le bien et le mal. Et ça, c'est le fondement de toute éthique et de tous les débats sur l'éthique. Et donc, l'essence de l'idolâtrie, c'est de se vouloir Dieu pour soi. Et c'est la racine de tous les péchés. Et quelque part, c'est beaucoup plus que la transgression d'une loi. C'est que l'être humain se pose en autonomie par rapport à Dieu et il ne veut plus laisser Dieu être Dieu. Ce que Don Carson a traduit, « the degodding of God », la dédéification de Dieu ou la chosification de Dieu. Et ça, c'est quelque chose dont nous devons prendre conscience. Reconnaître que je veux toujours me mettre au centre, même dans mes actes d'altruisme, bien souvent, malheureusement. Je sais le déguiser très très bien, ça aussi. Mais au fond, il y a moi, et puis il y a les autres. Et au centre de ma vie, de mes pensées, de mes intérêts, il y a moi. Et c'est une lutte dans laquelle nous avons à entrer, et pour laquelle nous avons l'esprit en nous qui peut nous rendre vainqueurs, de chaque jour, dans les petits choix de chaque jour, pour remettre Dieu au centre, et non pas nous. Pour godifier God, si je puis dire. On se comprend. Et donc c'est ça l'essence même du péché. L'essence même du péché, c'est de se vouloir autonome vis-à-vis du Créateur. Or, je suis une créature et je dois le reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Dieu ? Eh bien, c'est pour ça que j'ai mis la lampe d'Aladin. Dieu, ça va être celui qui va me faire des choses pour moi. Et je suis toujours au centre. Je vais utiliser Dieu. Dieu, il est là pour me donner de la joie, pour me contribuer à mon bonheur, pour satisfaire mes besoins, etc. Répondre à mes problèmes. Ben oui. Et c'est qui c'est moi. Et c'est le dieu lampe d'Aladin. Ah, s'il te plaît, là, il faut venir. J'ai un petit besoin. Examinons nos prières et voyons dans quelle mesure ce n'est pas des choses qui nous appellent. Alors ensuite, troisième partie, la sanction. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit par mis tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et ta femme et entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, la traduction, elle t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. C'est le même verbe. Je n'ai pas corrigé, mais il faudrait. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La sanction, ce sont d'abord... Oh, pardon, j'avais oublié de vous mettre le texte. La sanction, ce sont d'abord les trois morts. La mort spirituelle, immédiate, c'est cette séparation de l'humain avec Dieu. Le cœur de l'homme devient corrompu, et ses pensées, ses sentiments, son intelligence, sa volonté aussi. Deuxièmement, c'est la mort physique. Tu mourras certainement. Adam et Ève ne sont pas morts instantanément quand ils ont mangé le fruit, comme s'il était totalement empoisonné. Donc c'est la pomme ou la figue n'était pas empoisonnée. Mais il y a immédiatement cette cassure avec Dieu. Ça, nous en avons vu déjà quelque chose. Et la mort physique va suivre. Cette mort physique qui est une autre séparation, mais cette fois-ci de l'âme-esprit avec le corps. Elle est différée. Et elle va être anticipée par la maladie qui est, comme Henri Blocher le dit, la petite monnaie de la mort. en attendant la troisième mort, la mort éternelle, la séparation définitive d'avec Dieu. Et donc, l'histoire humaine va être empreinte de mort. Allez visiter le musée du Quai Branly et vous verrez combien dans toutes les civilisations, la mort est prégnante. Et c'est normal, parce que la mort, c'est bizarre. Il ne faut pas banaliser la mort. La mort, c'est horrible, c'est anormal, c'est choquant, c'est étranger. Ce n'est pas quelque chose de bien, la mort. Et nous avons à rester indignés devant la mort, qui est quelque chose que normalement l'être humain n'aurait pas dû connaître, mais qui a été introduit et qui est si répandu aujourd'hui partout autour de nous. Alors aujourd'hui, on veut exfiltrer la mort, hein, on la met dans les EHPAD, on la met loin, mais de sorte que beaucoup de gens parfois n'ont jamais constaté comment quelqu'un pouvait mourir dans son lit, et puis il y a parfois des gens qui attendent d'avoir 40 ou 50 ans pour avoir vu la première personne vraiment morte. Mais donc, il ne faut pas la banaliser, mais rester quand même indigné par le fait que ben, s'il y a des morts, c'est pas normal. Alors, les trois sanctions. La première sanction du serpent, c'est le symbolisme de ramper et de manger dans la poussière. Alors, je suis désolé, mais je n'ai jamais cru que le serpent avait des pattes qui étaient tombées au moment où Dieu lui a dit « tu ramperas ». C'est que le fait de ramper devient un symbole du fait que eh bien, le diable est relié à la poussière, c'est-à-dire à l'aspect d'en bas. Lui qui avait voulu s'élever si haut, eh bien, il restera toujours en bas. Vous avez un verset dans Ésaïe 65 qui reprend ça. Et ce qui est important aussi, c'est que dans la sanction que Dieu donne au serpent, la descendance de la femme te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon, eh bien, il y a une défaite ultime qui est assurée. Un jour, il n'y aura plus de malin avec un M majuscule. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le diable, eh bien, il fut jeté dans les temps de feu et ils seront tourmentés au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Deuxièmement, la sanction de la femme. Alors, vous remarquerez que c'est dans l'ordre des historiques et des responsabilités. Il y a une double perturbation. Il y a d'abord la perturbation de la maternité et la façon dont Dieu dit les choses est très importante. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il n'est pas dit qu'il n'y ait eu jamais de souffrance de grossesse s'il n'y avait pas eu de chute. Elles sont juste augmentées fortement. Pourquoi ? Parce que je pense que, par exemple, Adam, nous y reviendrons quand il travaillait le jardin, c'est pas comme s'il avait pu travailler le jardin d'Éden sans du tout se fatiguer. Parce que quand on ne se fatigue pas, on n'a pas de plaisir. C'est bien aussi de ne pas se fatiguer. Sauf que là, j'augmenterai beaucoup. Beaucoup. Donc il y a cette perturbation de la maternité en augmentation de souffrance. Et puis il y a la perturbation de la conjugalité avec la domination indue de l'homme sur la femme. Et donc là j'aimerais en tirer une application importante. Nous devons accepter la sentence de Dieu. Mais cette sentence de Dieu et le fait de l'accepter ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à l'atténuer. Quand Dieu dit « j'augmenterai beaucoup tes souffrances et puis ton mari dominera sur toi », c'est des punitions qui sont descriptives, pas prescriptives. Donc, qu'est-ce que j'en déduis ? C'est que la péridurale, ben, c'est OK. Si on peut réduire les très grandes souffrances de la grossesse, merci Seigneur. Et puis, c'est pas parce qu'il est dit que ton mari dominera sur toi que ça justifie le machisme. Les maris ici... Je vous demande de ne jamais prendre prétexte de ce verset. Au contraire, c'est le constat de ce qui se passe après la chute. Donc tout ce qui peut aller pour atténuer les conséquences de la chute, acceptons-les comme une grâce et une bonté de Dieu qui permet de réduire l'influence négative du péché. Sanction de l'homme, là aussi, perturbation du travail, augmentation de la peine et frustration. Le livre de l'Ecclésiaste fait très bien la balance entre le travail, qui est à la fois très positif, mais aussi très négatif. Et puis la mort physique et ses prédécesseurs, les handicaps, la maladie, etc. Et donc, il faut que nous acceptions l'ambiguïté actuelle de notre travail. Que le travail, c'est super, on peut s'éclater au travail, mais le travail aussi, c'est pénible, on peut se faire suer beaucoup. Alors, suivant les circonstances, le chef, les subordonnés, les collègues, etc., ça peut être plus ou moins vécu côté positif ou côté négatif, mais il y aura forcément un blend des deux. Forcément, forcément. Donc, la triple sanction, mais le chapitre ne s'arrête pas là, et Dieu annonce un remède. Je vais relire déjà le verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Et puis, les versets qui suivent, 20 à 24, « Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante tourbillonnante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le verset 15, dont j'ai déjà dit un mot, eh bien, c'est la promesse de ce qu'on a appelé le proto-évangile, c'est-à-dire le tout début de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que cette descendance du serpent ? La descendance du serpent, c'est toutes ces forces maléfiques qui ont suivi le diable. Il parlait du diable et de ses anges. Mais c'est au-delà. C'est tous ceux qui rejettent Dieu. Et Jésus lui-même a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Pourquoi ? Parce que la descendance, c'est ceux qui sont de la même nature, donc les forces maléfiques, mais c'est aussi ceux qui se comportent de la même manière. Et les Juifs, en refusant le témoignage que Jésus rendait de lui-même, finalement se constituaient enfants de celui qui est le menteur, et donc ils avaient pour père le diable. Parole forte que notre Seigneur a dite. Qu'est-ce que c'est que la descendance de la femme ? Eh bien, c'est la race humaine au sens large. C'est vrai qu'il y a ces influences maléfiques qui veulent faire du mal aux hommes au sens large, mais dans un sens plus restreint, c'est ceux qui suivent Dieu. Et dans le sens le plus restreint, c'est la descendance de Dieu, la descendance ultimement de la femme, eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, on a cette longue histoire qui parcourt la Bible de ce combat qui parfois atteint un paroxysme, comme par exemple en Exode 1, quand le Pharaon veut tuer tous les enfants. Qui est derrière, sinon le diable, qui se dit que comme ça, eh bien, la lignée de la promesse va s'arrêter et qu'il va être tranquille. Sous Joas, Athalie, c'est pareil. Elle veut faire exactement la même chose. Et Hérode, quand il veut tuer tous les enfants de Bethléem, c'est exactement pareil. C'est toujours cette collision. Et la victoire est assurée par Jésus-Christ, à la fois par son incarnation, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu, par la croix suprêmement. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, Colossiens 2,15, et par l'ascension de Jésus-Christ, il est monté sur les hauteurs, il a emmené captive la captivité, ou il a emmené les prisonniers, Éphésiens 4, verset 8. Donc la victoire est assurée, et déjà ce premier verset, Genèse 3, verset 15, nous l'assure. Deuxième remède, c'est la foi d'Adam. On n'en parle pas très souvent de la foi d'Adam. Mais Dieu va lui dire, tu vas retourner à la poussière. Et quelle est la première chose qu'il fait ? Il appelle sa femme Ève, la mère de tous les vivants. Il aurait pu l'appeler la mère de tous ceux qui vont mourir. Ça aurait été plus réaliste, non ? Mais non. L'entrée dans la mort n'est pas la fin de l'humanité. Ève va donner naissance à des vivants potentiels. Et donc c'est comme si, me semble-t-il, Adam s'appropriait personnellement la promesse de cette descendance de la femme qui allait continuer, qui n'allait pas s'interrompre. Et donc, pour nous, je pense que c'est important d'accepter la sentence de mort, mais aussi la vie qui continue. Et typiquement, c'est ce que nous vivons quand il y a un deuil, la mort répugnante, horrible, contre laquelle nous nous révoltons, mais aussi cette acceptation que la vie continue au-delà, grâce à Dieu. Autre remède que Dieu apporte, ce sont les vêtements de peau. Dieu continue de s'occuper des besoins de sa créature, et mieux qu'elle, parce que vous imaginez une ceinture de feuilles de figuier, ça ne dure pas très longtemps, hein, c'est de la fast fashion. Donc, tandis que là, Dieu il va donner un vêtement de peau, ça c'est plus durable. Hein. Et donc il va permettre que les conséquences du péché soient prises en compte. Et ça, c'est très touchant, je trouve, de voir comment Dieu, dès le début, tient compte du péché, ne fait pas comme s'il n'existait pas, n'est pas ce Dieu qui pourrait dire ben « Vous avez péché, débrouillez-vous maintenant, je m'en lave les mains. » Non, non, il est revêt de vêtements de peau. Qu'est-ce que c'est touchant. Et alors j'ai retiré cette citation de Derek Kidner. « L'action sociale, maintenant déléguée à des mains humaines, n'aurait pas pu avoir une plus ancienne et une plus glorieuse inauguration que ce revêtement par des peaux que Dieu a faite. » Et donc, nous avons besoin de nous inscrire à la suite de Dieu pour pallier les conséquences du péché. Et c'est normal d'essayer en tant que être humain créé à l'image de Dieu, conscient de la chute, conscient des conséquences de la chute, mais conscient aussi du fait que, eh bien, dans une mesure, l'action peut pallier en partie les conséquences du péché. Et puis le dernier remède, c'est la mesure de grâce de l'expulsion d'Éden. Alors ça, on pourrait dire, c'est un peu bizarre comme, d'appeler ça une mesure de grâce. Mais oui, parce que finalement, éloigner l'homme de l'arbre de vie, c'était lui faire perdre l'accès à une immortalité potentielle sans Dieu. Et ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu dit, de peur qu'il n'avance sa main et prenne aussi de l'arbre de vie et ne vive éternellement. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement sans être en communion avec Dieu, dans un sens. Et donc, Dieu concrétise ici le fait qu'il y a cette perte de communion directe avec lui et que l'homme ne pourra pas se sauver lui-même. L'homme ne peut plus attraper de lui-même l'arbre de vie et en manger et vivre éternellement. Non, il faut, Dieu le sort du jardin parce qu'il y a cette rupture qui est intervenue. Et c'est Dieu qui va intervenir lui-même pour apporter la solution. Et ça, c'est très important de le réaliser. Dieu garde lui-même le jugement. Le jardin, pardon. Et il y a ces chérubins qui sont là. Chérubins, personnellement, de plus en plus, je pense que ce ne sont pas des anges, mais c'est une personnification d'attributs de Dieu, ici, d'attributs de sa justice et de sa sainteté. Et ces chérubins, on va les retrouver sur le voile du tabernacle, on va les retrouver sur le temple de Salomon pour dire, eh bien, voilà, l'accès à la présence de Dieu au sein des saints, il est barré. Sauf qu'un jour, le voile va se déchirer, les chérubins vont être déchirés et nous allons pouvoir entrer, c'est Hébreux 10, verset 19 et suivant, ayant donc frère une pleine liberté, etc. Parce que Dieu nous a tracé ce chemin nouveau et vivant à travers la chair de Jésus-Christ qui nous permet non pas de rentrer de nouveau dans Éden comme s'il fallait revenir à un paradis perdu, mais de trouver une communion qui va trouver son aboutissement dans l'Apocalypse, dans une béatitude que même Adam et Ève dans le jardin ne pouvaient pas connaître. Et c'est vers l'Est, vous aurez remarqué, et l'Orient d'en haut, ou l'Est d'en haut nous a visités. C'est de l'Est qu'est venue la solution en Jésus-Christ. Alors, rappelons-nous qu'il faut renoncer définitivement pour le temps présent à un illusoire retour en Éden, et ça c'est pour les naturistes et pour d'autres, et qu'il faut louer l'ouverture qui est celle des croyants avec la croix, puisque désormais l'accès à Dieu nous est ouvert, nous l'avons emprunté ce matin, partiellement, imparfaitement certes, mais désormais nous pouvons retrouver cet accès. Et alors, en conclusion, deux planches. Moi et mon péché, moi et mes péchés. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, et moi j'ai un problème avec mon péché, avec mes péchés. Ben ouais, parce que je pêche. Un peu trop. Beaucoup trop. Tous les jours. Dans trop de domaines. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On reconnaît qu'effectivement, je suis de la race d'Adam, tous ont péché. Dans Adam, tous meurent. Et puis que ce péché a des conséquences dans ma relation avec Dieu. Je ne peux pas faire comme si de rien n'en était. Et ce chapitre aussi nous montre que le bien suprême d'Éden, ce n'était pas les arbres, c'était cette relation avec Dieu. Et où suis-je en Adam ? Où suis-je comme homme ? Bien aujourd'hui, en dehors du jardin, et il y a l'épée tourbillonnante. Et donc, je dois m'occuper de ce qui rompt cette communion avec Dieu. Alors, nous savons que cette communion, elle a été rétablie par la croix de Jésus-Christ, qui fait le pont désormais entre Dieu et nous. Donc, il y a cette possibilité. Mais c'est quand même un sujet quotidien. Et alors, je voulais citer ces quatre textes de la première épître de Jean. La ressource pour chaque péché, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout ou de chaque péché. Le fait qu'il est impossible de mettre ce sujet de côté, comme dire bah, « je ne suis pas plus ou pas ou plus concerné ». Non, non, non. Si nous disons que nous n'avons pas de péché au singulier, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ah oui, effectivement, il y a du péché. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, il est nécessaire de confesser. Si nous reconnaissons, au lieu d'accuser les autres, hein, vous vous rappelez tout à l'heure, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Et un réalisme nécessaire. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas saine. Ce réalisme nécessaire qui fait que c'est quand même un vrai sujet. Mais la Bible ne s'arrête pas là et nous savons qu'un jour, il n'y aura plus de péché. Et ce qui est très frappant, c'est que quand l'Apocalypse reprend le symbolisme de la Genèse, en Apocalypse 22, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez un fleuve qui sort de la cité et de chaque côté, il y a un arbre de vie. Il y a toujours deux arbres. Il n'y a plus que de nature l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a disparu. Parce que tout sera bien. Le mal aura disparu. Le mal qui a surgi brusquement dans le jardin d'Éden aura une fin, chers frères et sœurs. Et ça, c'est un encouragement fantastique et c'est un aliment de notre espérance magnifique. Alors Dieu, aujourd'hui, sauve des pécheurs. C'est le remède pour la punition du péché d'hier. Dieu nous donne la puissance par son esprit d'être victorieux. Et ça, c'est le remède pour la puissance du péché pour aujourd'hui. Et Dieu abolira le péché et la mort. Et ça, c'est le remède définitif pour la présence du péché demain. Gloire lui soit rendue.